Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour Déborah, comment allez-vous cette semaine?
Bonjour Virginie, eh bien je vais très bien.
Bon, super.
Ça se passe bien.
Alors nous avons l'habitude de parler avec vous de pratiques alimentaires, d'alimentation, de nutrition. Mais cette semaine, nous allons aborder un sujet particulièrement d'actualité, car nous sommes en début de rentrée, le harcèlement scolaire, avec comme résultante la grossophobie, qui est, je le rappelle, une attitude méprisante, voire hostile, envers les personnes en surpoids. Nous vous écoutons, Déborah.
Et oui, c'est un sujet vraiment en pleine actualité, on en parle de plus en plus. Et moi, en fait... J'étais un peu surprise parce que l'OMS estime qu'aujourd'hui, 63% des enfants en situation de surpoids et ou d'obésité risquent d'être victimes d'harcèlement scolaire avec des répercussions dramatiques tant sur le psychologique que sur la vie personnelle, pouvant aller, ben on le voit de plus en plus, hein, très souvent jusqu'au suicide de l'enfant.
Ah oui, c'est
cette énorme. Situation, ben oui, mais c'est... C'est vraiment une situation inadmissible qui fait le lien avec une société où la grossophobie, même parfois venant du corps médical, on va le voir, hein, est en hausse croissante et reste malheureusement trop souvent impunie ou prise au sérieux. Et donc le harcèlement scolaire et la grossophobie sont deux problèmes complexes qui malheureusement se retrouvent trop souvent entrelacés dans le contexte éducatif. Donc, il est pertinent d'explorer en profondeur le lien troublant entre ces deux phénomènes, en examinant comment ces deux interagissent et affectent la vie des élèves, tout simplement. Donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je rencontre beaucoup de personnes, moi, en consultation, qui sont victimes de grossophobie. Mais alors, quand ça touche l'enfant, je pense que c'est encore plus à cœur.
Alors, est-ce qu'on peut faire le lien, justement, et je vais vous laisser nous expliquer un peu tout ça. Faisons ce lien entre grossophobie et harcèlement scolaire.
Donc, la grossophobie, en fait, vous avez commencé un peu à initier sa définition. C'est une forme insidieuse de discrimination basée sur le poids ou l'image de façon générale. Donc, elle cible spécifiquement les individus en situation de surpoids ou d'obésité et se manifeste à travers des attitudes négatives, des préjugés et, ou des comportements discriminatoires. En milieu scolaire, cela peut prendre la forme de moqueries, d'insultes ou encore d'isolement social envers les élèves en surpoids. La grossophobie perpétue alors des stéréotypes nuisibles selon lesquels les personnes en surpoids ou souffrant d'obésité seraient paresseuses, gloutonnes ou encore dépourvues de volonté. Le harcèlement scolaire, en revanche, englobe un éventail de comportements hostiles tels que des brimades, des menaces, des violences verbales et ou physique, et même le harcèlement en ligne. Les élèves victimes de harcèlement sont souvent ciblés pour des caractéristiques qui les rendent différents de la norme perçue par leur père. Dans le contexte de la grossophobie, le poids devient un facteur déterminant pour être pris pour cible. Le lien donc entre la grossophobie et le harcèlement scolaire réside dans le fait que la grossophobie alimente le harcèlement en fournissant une excuse ou une justification aux agresseurs. Les stéréotypes négatifs associés à la grossophobie sont utilisés pour humilier les élèves en surpoids et renforcent ainsi le cycle de l'intimidation. De plus, les victimes de grossophobie peuvent encore plus être vulnérables au harcèlement parce qu'elles souffrent déjà de problèmes d'estime et de confiance en elles. Les conséquences de cette double forme de victimisation sont vraiment très graves. Les élèves ciblés souffrent non seulement de détresse émotionnelle, mais ils peuvent également voir leur rendement scolaire affecté. Donc, le climat scolaire en souffle également, car l'intimidation liée à la grossophobie crée un environnement hostile et non inclusif. Et donc, cette situation n'est malheureusement pas isolée au secteur scolaire, mais se retrouve également dans différents contextes de notre vie au quotidien. Et beaucoup, beaucoup malheureusement, à mon grand désespoir, dans un cadre médical. Et si nous assistons à cela de façon banalisée de la part d'adultes ou de parents, hein, parce que c'est quand même dans les familles que c'est important d'y travailler, il n'est donc pas surprenant de les retrouver chez l'enfant ou l'adolescent et du coup que ça se répercute dans le système scolaire.
On va marquer une petite pause, Déborah, avant de poursuivre donc sur ce sujet de la grossophobie.
Tout va bien. Mangeons, Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Merci de nous rejoindre si c'est le cas sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Déborah, vous nous parlez aujourd'hui de ce lien entre le harcèlement scolaire et la grossophobie, attitude discriminatoire en direction des personnes en surpoids. Déborah, comment reconnaît-on la grossophobie ?
Eh oui, c'est déjà la base, parce qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à reconnaître en fait les attitudes grossophobes. Dans notre vie de tous les jours, les personnes en situation de surpoids et d'obésité sont très souvent, voire quasiment tous les jours, victimes de grossophobie et n'osent d'ailleurs très souvent pas ni dénoncer, ni répondre aux personnes qui prodiguent la grossophobie. Pour donner quelques exemples de différentes formes de grossophobie, parce que ça peut se manifester vraiment partout, eh bien, par exemple, quand nous allons consulter notre médecin généraliste pour une angine ou tout autre problème de santé et que nous ressortons avec une mise en garde sur notre poids, voire même une obligation de perdre du poids, alors que le motif en fait, de consultation n'avait absolument pas de lien avec le poids et donc que le sujet du poids est ramené en état d'urgence sans même que nous l'ayons évoqué, c'est une forme de grossophobie. Intimider la personne qui n'a pas de problème de santé durant, lié à son poids, mais lui dire « attention ton poids, attention il faut maigrir, il faut perdre tant et tant de kilos », c'est de la grossophobie.
C'est un début, par exemple, d'un enchaînement vers quelque chose qui peut être...
C'est un début. Moi, je vais voir mon médecin pour, parce que je souffre d'un rhume ou d'une angine. Je n'ai rien demandé au poids, en fait. Et l'angine, le lien avec l'angine et le poids n'a pas lieu, en fait, n'a pas lieu d'être. Donc, à partir du moment où le patient est en très bonne santé, il n'y a pas besoin de rajouter le sujet du poids sur le tapis, sauf si la personne en a parlé. Bien évidemment, si la personne demande conseil à son médecin, bien sûr que c'est important d'en parler. Si ce n'est pas l'objet de la consultation, il n'y a pas besoin d'en parler. Ça peut aussi prendre, et ça c'est très 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 fréquent, pour des femmes qui sont dans un projet de grossesse et qui vont consulter leur gynécologue, qui leur raconte qu'elles ne peuvent pas se projeter dans un projet de bébé tant qu'elles ne perdent pas de poids. Même si l'obésité peut effectivement mener à des complications de grossesse qui, par ailleurs, peuvent se prévenir et se travailler, personne, absolument personne, devrait décider à la place des femmes du bon moment pour choisir de devenir maman. D'ailleurs, pléthore de femmes en situation d'obésité mènent une grossesse sans absolument aucune complication. À partir du moment où c'est accompagné et cadré, il n'y a pas besoin de rajouter des couches et d'empêcher une personne, une femme, de devenir maman à cause de son poids qui, peut-être, très certainement, est déjà une difficulté pour elle. Ça peut aussi prendre la forme... dans notre vie quotidienne, quand on va faire du shopping et que la vendeuse ou le vendeur nous sort qu'on ne va pas trouver notre taille dans ce magasin avant même de savoir ce que nous étions venus acheter dans cette boutique ou de nous avoir demandé notre taille tout simplement. C'est d'ailleurs le reflet d'une vie dans une société où les vêtements ne sont pas taillés ni même pensés pour la majeure partie de la population, mais juste pour rappeler que notre corps est un problème. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un moule, il faut rentrer dans une taille, etc.
Et la mode incite bien sûr aussi à ce genre de choses.
Bien sûr, mais c'est une façon insidieuse de grossophobie, à mon sens. Ou alors, tout simplement, quand notre entourage nous dit ce genre de remarques, là, vous savez, c'est dommage d'être gros ou grosse parce que tu as quand même un beau visage. Suivant une société qui nous affirme qu'un corps beau, c'est forcément un corps mince. La dissociation entre le visage et le corps, c'est surréaliste quand nous pensons que la même personne serait peut-être moins jolie de visage avec un corps plus mince et que c'est justement son corps qui en fait sa beauté. Tous ces exemples, c'est vraiment des retours de patients que j'entends moi en consultation. Ou alors, j'entends aussi ça, des personnes qui me relatent sa famille lui disait qu'il faudrait peut-être penser à se mettre au régime parce que c'est bientôt l'été, alors que peut-être nous sommes tout simplement à notre poids de forme et que nous avons un rapport sain avec notre corps et que nous sommes bien dans le corps dans lequel nous avons. Émettre une supposition que vivre avec un corps qui n'est pas dans les normes est forcément difficile à vivre, alors que c'est justement ce genre de réflexion et la société qui ne fonctionne pas normalement et qui rendent la vie difficile. Donc, nous pourrions encore vraiment relater, mais je pourrais vous dire pléthore d'exemples comme ça, de ce type, que j'entends tous les jours en consultation. Mais je pense que vous avez saisi un peu la spécificité. C'est dès lors que le poids est ramené sur un sujet, alors qu'il n'est pas le sujet de base, peut-être qualifié de grossophobie. Mmh. Et je rappelle que l'obésité, la vraie obésité, c'est une réelle maladie. C'est pas un choix. De même que le surpoids peut tout à fait être à l'origine d'un dysfonctionnement physiologique ou d'une maladie ou d'une période difficile qu'on est en train de traverser.
Mmh. Oui, donc c'est pas la peine d'en rajouter, hein, on est bien d'accord.
Exactement.
Alors nous allons voir ensemble comment lutter contre ce fléau juste après une petite pause musicale. Et je rappelle que si vous souhaitez réagir sur cette émission ou poser vos questions à Déborah, n'hésitez pas, vous avez pour cela un numéro à votre disposition, le 06 66 94 59 02, ainsi que la page de contact du site nutriradio.fr.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah, avant la pause, vous nous avez indiqué comment il était possible de reconnaître la grossophobie au quotidien. Comment peut-on à présent lutter contre cette attitude néfaste, voire dangereuse ?
Eh bien déjà, pour lutter contre cette problématique, il me semble impératif d'aborder conjointement la grossophobie et le harcèlement scolaire, hein, parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est faire le lien avec la grossophobie et le harcèlement scolaire. Toutes les écoles, en fait, devraient mettre en œuvre des politiques de tolérance zéro. Mais absolument toutes les écoles, ça devrait être une obligation, un projet de loi. Toutes les formes de harcèlement en sensibilisant les élèves, les enseignants et les parents aux conséquences dévastatrices de ces comportements. De plus, les programmes éducatifs devraient promouvoir la diversité corporelle, la tolérance et l'acceptation de soi. En conclusion, le lien entre la grossophobie et le harcèlement scolaire est un enjeu vraiment sérieux, qui mérite toute notre attention. En comprenant cette dynamique complexe et en mettant en place des mesures éducatives et préventives appropriées, nous pouvons vraiment contribuer à créer des environnements scolaires plus inclusifs, respectueux et bienveillants, où chaque élève a l'opportunité de s'épanouir vraiment. Donc, il est donc essentiel d'être attentif à ce qui se joue dans la cour des établissements scolaires, mais également dans les salles des profs, dans les couloirs, à l'extérieur de l'établissement, ainsi qu'au sein même des familles. Il me semble également indispensable et majoritaire de dénoncer toute forme de grossophobie au sein même du corps médical, de même de travailler notre assertivité pour répondre favorablement. L'assertivité, en fait, c'est la façon de répondre à une personne, ça fait lien à la confiance en soi. Et donc, si par exemple, on incite les enfants, on les fait accompagner pour qu'ils travaillent leur assertivité afin qu'ils gagnent en confiance en eux et qu'ils puissent ainsi se rebeller, dénoncer toute forme d'injustice liée à leur image est également une piste fondamentale. Et cela malgré leur surpoids ou leur obésité. L'assertivité se travaille avec un ou une psychologue en priorité et dans le domaine de l'image corporelle et peut tout à fait se travailler avec un ou une diététicien spécialisée dans le comportement alimentaire. Personnellement, moi, c'est un aspect que je travaille très souvent avec mes patients en consultation. Mmh. Et donc, ce chiffre...
Oui.
Ouais, j'avance, moi.
Oui, je vois ça. Je rappelle que donc, vous avez précisé en début de cette émission que l'OMS estime qu'aujourd'hui 63% des enfants en situation de surpoids et d'obésité risquent d'être victimes de harcèlement scolaire. Est-ce qu'on aurait une conclusion finalement à tout ce que vous venez de nous dire ?
Eh oui, bien sûr. En fait, ce chiffre donne et doit vraiment donner à réfléchir quant à notre société et aux priorités qu'elle place sur l'image. Il nous rappelle également que les différences entre chaque humain sont encore difficiles à accepter et qu'il nous reste encore donc beaucoup de travail en termes de prévention, qu'il est impératif de ne rien laisser passer. Il me semble néanmoins pertinent de rappeler que dans le code pénal, la discrimination, qu'elle soit fondée sur l'apparence physique, l'orientation sexuelle ou encore l'origine, est punie de la même façon, soit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, selon l'article 225/2.
Oui, alors du code pénal. Merci pour ce dernier petit point juridique. On sent l'engagement et vous avez tout à fait raison. Donc, il ne faut pas oublier que ce sont des situations que l'on peut retrouver donc ailleurs que dans le milieu scolaire et qu'il est important de les signaler, donc de se faire aider et d'informer le plus largement possible pour sensibiliser à cette discrimination, comme vous le disiez, punie par la loi. Merci beaucoup, Déborah.
Exactement. Bah merci, avec grand plaisir Virginie.
Donc si vous souhaitez réécouter cette émission, vous le pouvez bien sûr sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Déborah, on se retrouve donc la semaine prochaine.
Avec plaisir, à la semaine prochaine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.